Pas directement, dans la mesure où je suis historien, et l'historien est au service de la vérité. Alors vous me direz, la vérité rejoint celle du Christ, bien entendu. Mais je veille toujours dans mes ouvrages à ce que les aspects de spiritualité de mes personnages soient bien mis en valeur. J'ai écrit des biographies de Louis XIV, de Louis XIII, de Louis XVI, et à chaque fois j'insiste sur la foi ou la forme de croyance de ces personnages.
Vous avez écrit également récemment un livre qui s'intitule « Jésus ». De quoi s'agit-il exactement? Quel est le contenu de cet ouvrage?
Alors, c'est un livre du Jésus de l'histoire, puisque c'est une approche historienne qui fait la synthèse de tous les travaux d'archéologie, d'histoire antique, d'exégèse. Et vraiment, donc, c'est un ouvrage qui a pour but de savoir exactement ce que nous connaissons aujourd'hui, faire le point en croisant toutes les sources sur le Jésus de l'histoire. Là, il s'agit de trouver, de reconstituer, de connaître le plus exactement possible la vie, le caractère de Jésus de Nazareth, la chronologie, sa date de naissance, la durée de son ministère public, la date de la passion. Il s'agit de s'interroger sur l'homme, de savoir qui il était vraiment. Était-il un prophète, un réformateur juif, le Messie attendu d'Israël? Était-il le Fils de Dieu? Alors l'historien ne peut pas répondre, bien entendu, à cette question, mais à tout le moins peut arriver à la conclusion, et c'est la mienne, que Jésus pensait avoir une relation unique et toute particulière avec Dieu son Père. Et puis, pour quelles raisons il a été exécuté, et à l'instigation de qui? Des Romains ou des autorités juives de Jérusalem. Donc il s'agit en quelque sorte de replacer Jésus dans son environnement religieux, culturel, économique et bien sûr politique de la Palestine de son temps. Donc c'est une approche par le bas qui est très différente bien entendu de celle tout à fait remarquable de Benoît XVI, mais qui est une exégèse théologique en réaction contre les excès de la méthode historico-critique qu'il ne condamne pas, mais dont il a vu les limites.
Et quel a été le rôle de votre foi chrétienne dans l'écriture de ce livre?
Alors je pense que ma foi m'a inspiré, mais l'historien doit s'arrêter devant un certain seuil. Ce n'est pas de son ressort, ce n'est pas de sa science, ni de son domaine de compétence, de dire que les exorcismes, les miracles et a fortiori la résurrection sont des mythes. On ne peut pas se prononcer là-dessus. On n'a pas d'explication scientifique à donner. L'historien doit s'arrêter au seuil du mystère. Mais évidemment, l'historien doit rester aussi ouvert sur la foi. Il ne peut pas nous raconter que la multiplication des pains, c'est un banal partage de casse-croûte et un échange fraternel de nourriture autour de Jésus. Ça peut servir d'instrument d'évangélisation pour celui qui, en effet, manque de base. Ça peut faire prendre conscience à des chrétiens de l'incarnation et de la réalité historique de Jésus. Et puis, ça peut aussi conduire certains agnostiques à s'interroger. Et ça peut aussi servir pour leur méditation et leur réflexion. Donc, dans une certaine mesure, ça peut être un instrument d'apostolat.
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un ouvrage entièrement consacré à Jésus?
C'est simplement pour préciser les choses. Le christianisme, c'est la seule religion incarnée et il est capital de bien connaître son fondateur, de bien connaître Jésus de Nazareth. Cela aussi bien d'ailleurs pour les croyants que pour les incroyants. Ce n'est pas un mythe, comme on l'a dit au 19e siècle. Jésus a bien réellement existé et a montré dans sa vie un mystère, parce que c'est en effet un juif, et il est pleinement juif, un juif religieux, mais pas un juif banal, pas un juif ordinaire. Il est en décalage, malgré sa profonde judaïté, avec le judaïsme ou les différents courants juifs de son temps. Ce n'est pas un sage, ce n'est pas un philosophe, parce que le message est lié directement au messager, et on le voit très clairement, le royaume de Dieu qu'il annonce, eh bien c'est lui-même. Et puis, la façon inouïe dont il use de son autorité, lui, l'humble artisan de Nazareth, a quelque chose de stupéfiant. Il dit, Moïse vous a dit de faire ceci, eh bien moi, je vous dis de faire cela. Donc il se situe au-dessus de Moïse. Il appelle son père Abba, c'est-à-dire papa. Alors, bien entendu, dans la religion juive, il y avait la reconnaissance de la paternité divine du peuple d'Israël, mais on avait beaucoup de déférence à l'égard de Dieu, et on ne l'appelait pas papa, en araméen, Abba. Il dit aussi à ses disciples et apôtres, mon père et votre père. Et donc il prend sa distance, toujours, sauf pour enseigner à ses disciples, bien sûr, le Notre Père. Donc il y a un mystère autour même de la personne de Jésus, et ce mystère, bien entendu, ne peut être résolu que dans la foi.
Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui l'Église et la société ont besoin d'écrivains catholiques ?
Ah oui, surtout, je dirais, en France, où les catholiques représentent une petite minorité, un peu moquée souvent dans les médias. Et il est important pour les écrivains catholiques, pour les chrétiens, de répondre de leur foi, et ce que je fais à chaque fois qu'on m'interroge sur ma foi. Et puis, je dirais, au-delà, l'écrivain catholique est amené à défendre la conception chrétienne de l'homme, l'anthropologie chrétienne, et défendre la vie de la conception jusqu'à la mort.
Aujourd'hui, quel est le principal défi de l'écrivain catholique ?
Ne pas avoir peur. Ça renvoie également à l'Évangile et puis à Jean-Paul II. Accepter la discussion, accepter le point de vue de l'autre, de confronter sa foi au rejet de la foi d'un certain nombre d'individus, de garder la charité et l'ouverture qui étaient celles du Christ, mais ne pas céder sur la vérité. Le Christ est à la fois vérité et ouverture, et je crois qu'il faut garder ces deux pôles.